Bienvenue à bord de la capsule Mana et Plasma, à destination des univers de l'imaginaire. Prenez place. Dans quelques instants, nous voyagerons au travers des œuvres de l'esprit.
Cinéma, littérature, science-fiction, fantasy, horreur, fantastique, musique, jeux vidéo.
N'ayez crainte. L'équipage est là pour vous servir de guide. Mana et Plasma, décollage dans 3, 2, 1.
Hello ! Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir.
On espère que vous allez bien. Alors, chers amis auditrices, auditeurs, auditrices, ce soir, on va parler du travail dans l'imaginaire. Alors, on avait voulu faire cet épisode pour le 1er mai, puis en fait, on n'était pas tout à fait prêt. Mais bon, le sujet nous intéresse tellement qu'on s'est dit qu'il ne fallait pas louper le coche de l'épisode d'après. Donc, nous voici ce soir pour parler du travail dans la SFFF. Donc, on va prendre nos jumelles et essayer de repérer dans le futur s'il y a des retraites. Bon, je blague, excusez-moi, journée d'article 40, je crois, de la Constitution. Il fallait bien faire une petite référence à ça. Mais on vous rassure, on ne va pas parler directement de politique ce soir, même si, évidemment, quand on parle d'un tel sujet, c'est difficile de ne pas totalement avoir quand même un point de vue, évidemment, sur le sujet.
Oui, puis, je suis dans l'émission, donc on va être obligé.
Et ce qui est quand même, je trouve, fantastique avec la SFFF, comme d'habitude, c'est que c'est un outil merveilleux pour explorer l'organisation de nos sociétés. Puis s'il y a bien un phénomène social omniprésent dans notre vie, c'est le travail, et sous toutes ses formes. Hein, on ne va pas parler seulement du boulot au sens où l'entend le gouvernement, mais aussi du travail bénévole, du travail libre ou forcé, agréable ou horrible. Donc ce soir, on va aborder le travail à travers différentes thématiques, le sens du travail, l'aliénation dans le travail, l'organisation sociale du travail, des jobs que la SFFF a pu imaginer, qu'ils soient fun ou au contraire horrible, des luttes sociales aussi, bref, il y a de quoi de faire. Pour cet épisode, nous avons le plaisir d'avoir autour de l'écran Anouchka, Marc Ancho et moi-même, Miroir SF. N'hésitez pas à réagir pendant l'émission si vous avez des questions. Allez, alors on va démarrer. J'espère que vous allez bien, Marc, Anouchka.
Ouais, ça va.
Oui, merci. Content d'être avec vous ce soir.
pour commencer, je vous propose qu'on commence sur la thématique de la poursuite de l'aliénation dans le travail, dans les littératures de la SFFF. C'est vrai que il y a quand même il y a beaucoup de dystopies.
Peut-être ouais, pour vas-y. Le public, est-ce qu'on peut définir déjà l'aliénation au travail, enfin l'aliénation tout court et ensuite l'aliénation au travail?
Je te sens motivé, vas-y.
Et définition du travail aussi.
Non mais c'est facile, le travail ça vient de tripalium, le tripalium c'est un instrument de torture chez les latins. C'est une histoire qui est hyper connue, mais voilà, comme ça on commence avec des bases un peu... Le travail par essence, c'est une sorte de torture. Après, bref, c'est pas la question. Du coup, l'aliénation, mais là tu m'avais dit qu'on essaierait de... T'as dit qu'on n'allait vraiment pas esquiver la politique, mais du coup on rentre directement dedans, puisque l'aliénation, c'est un concept qui vient d'un philosophe que j'aime beaucoup personnellement, qui s'appelle Karl Marx. C'est un terme clé d'ailleurs dans la pensée de gauche. L'aliénation, c'est le fait d'être dépossédé de soi, que ce soit par des pathologies ou par l'environnement social. Et dans le travail, tel que théorisé à l'origine par Marx, le travailleur, l'ouvrier, est dépossédé de son corps par... Il est dépossédé de son corps par son patron, celui qui l'emploie, qui utilise sa force de travail pour s'enrichir, là où le travailleur, lui, ne va pas forcément s'enrichir beaucoup. Ce qui fait que, du coup, il est dépossédé de son corps, mais il est aussi dépossédé de son esprit, puisque, à la base, c'est encore le cas maintenant aussi, dans certains cas, l'ouvrier, en fait, il est épuisé physiquement, et donc il n'a plus forcément le temps de s'éduquer ou de se cultiver ou de s'instruire, et donc du coup de gagner des moyens intellectuels, de s'émanciper pour faire face à son patron ou pour préparer une révolution au hasard comme ça. Donc du coup, l'aliénation, c'est un concept clé pour comprendre à la fois les pensées qui visent à repenser pardon pour la répétition, le travail. Et c'est aussi un concept clé en science-fiction parce que, et je pense que c'est ce que tu voulais dire, Jean, les univers de SF qui décrivent des travailleurs et des travailleuses aliénées, il y en a vraiment des tonnes. Et surtout, enfin, il y a beaucoup de dystopies récentes qui le décrivent. On va sans doute en reparler, donc je te laisse du coup continuer.
Alors oui, moi je peux donner quelques exemples pour... J'avais en tête aussi bien dans la fiction que, enfin dans la littérature que dans le cinéma. Alors je parle rarement de séries, mais peut-être pour justement en citer une, la série The Expanse. On voit pour ceux qui connaissent pas la série, on a le système solaire et il y a Mars qui est terraformé. Il y a des conflits entre Mars et la Terre, et puis il y a une ceinture d'astéroïdes sur laquelle les ouvriers qui sont complètement exploités pour tout ce qui est minerais, eau, qui sert à la fois pour la Terre, mais surtout pour Mars. Et c'est quelque chose qui est assez présent, mais de manière générale, je trouve que dans beaucoup de dystopies, c'est très 19e siècle, finalement, je trouve, dans les SFFF, les conditions de travail. Même de façon plus futuriste, j'ai un exemple que j'aime bien, dont je parle souvent ici, c'est Love Star je ne sais jamais prononcer son nom, c'est Andrin Snær Magnason. Je le prononce très mal, c'est un Islandais. Mais pour donner un exemple que je trouve assez génial comme idée, il imagine que donc tous les corps sont connectés à la nature et qu'on finit par découvrir, et ça permet de faire transiter plein de micro-messages, un peu comme s'il y avait du Wi-Fi ou du Bluetooth qui nous connectait au vivant. Et donc ça permet cette invention fabuleuse qui est très, très esclavagisante, qui est qu'on peut louer ses cordes vocales pour des publicités. Ça me transforme
Mais je me demande si on n'en avait pas parlé, parce que moi ça me rappelle aussi le fait qu'on puisse louer ses cordes vocales. Ça me rappelle une nouvelle horrible d'ailleurs de Rich Larson, qui est dans La Fabrique des Lendemains, qui est un recueil publié aux éditions du Bélial et qui est dispo en livre de poche maintenant. Où des gens peuvent louer littéralement leur temps de cerveau disponible pour recevoir des pubs pendant qu'ils dorment.
Ah oui, oui, effectivement.
C'est aussi un peu horrible. Mais oui, je crois qu'on a déjà eu cette conversation.
Je vous avais lu un passage où parce que le problème, c'est que les publicités n'arrivent pas, ils ne contrôlent pas le moment où ça arrive, et donc le personnage est en train de marcher dans la rue et peut à tout moment se mettre à dire « Oh, mais tu as des superbes chaussures Nike, il faut à tout prix acheter des chaussures Nike !» Et donc c'est évidemment très horrible socialement.
Oui.
Anouchka, tu voulais dire quelque chose, je crois.
Oui, au niveau des représentations un petit peu contemporaines du travail, je vois un peu deux courants. Dans la science-fiction, en tout cas, il y a effectivement le courant, on va dire, avec exploitation des ouvriers, comme dans The Expanse. Très, très bon exemple là-dessus. Je vois aussi, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez lu, OPEX de Jane Ford, dans lequel, en fait, des militaires peuvent voyager à travers les mondes, mais à chaque fois, on va leur inoculer entre guillemets des souvenirs de ce monde-là pour qu'ils maîtrisent la langue, etc. Sauf que quand ils en partent, on efface tout. Donc en fait, leur temps de travail est complètement oublié, leur corps est vraiment exploité pour aller mener des guerres, etc. Donc j'avais trouvé ça assez terrible. Et il y a aussi le travail pour maintenir des gens occupés sur des tâches qui n'ont absolument aucun sens. Ça, je trouve, c'est un autre courant, que c'est deux choses assez différentes. Et dedans, je vois, par exemple, dans VTM de Jean Barrette.
J'allais en parler, donc parfait, c'est bien que tu en parles.
Severance, comme ça a été cité dans le chat, dans lequel c'est une super série, je vous la conseille, elle est vraiment, vraiment géniale, et dans laquelle des personnes peuvent séparer leur cerveau en deux et donc ne se souviennent absolument pas de leur temps de travail.
Il y a tout pile de un an, je me souviens.
Oui, probablement, oui. Elle est vraiment très, très bien. Et en fait, pendant leur journée de travail, les personnes font des choses auxquelles elles ne comprennent rien. C'est, elles passent leur temps à cliquer sur des, sur des cubes, des choses comme ça, enfin trier des chiffres dans des ordinateurs. Bah ouais. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Donc, je vois vraiment ces deux courants. Pareil, dans la séquence Hartman, il y a aussi un petit peu le côté mini-job qui, avec
bah là, pour le, coup,
le
c'est
travail
plus,
très séquencier. C'est un peu différent encore.
C'est très différent encore, la séquence Hartman. Mais pour reprendre VTM, c'est des travaux qui sont hyper aliénants dans le sens où ils en deviennent absurdes. Puisque dans VTM de Jean Barret, les personnages font le job du travail principal, le job du personnage principal, pardon, qui s'appelle Sylvester Stallone d'ailleurs, c'est d'aligner des cubes de couleurs. Et c'est tout le temps ça, en fait. C'est répété que son travail, c'est ça. Et lui-même ne comprend pas ce qu'il fait. Quand il discute avec d'autres gens, alors il trie des images, il trie des ronds, il trie des cercles. Mais c'est pareil, le travail a perdu complètement son sens dans le monde de VTM. Et c'est assez terrible parce que ça montre une vision. Je vois ce que tu voulais dire, Anouchka, en fait, quand tu disais que c'était différents courants. Puisqu'il y a des auteurs qui montrent qu'en fait, le. Enfin, oubliez, non. Ça va être un peu compliqué, je suis désolé. Mais.
Vas-y, en fait, exprime-toi, Marc.
En fait, ce qui est très intéressant d'un point de vue de ce que montrent en fait les auteurs de science-fiction maintenant, c'est que en fait, le travail devient de plus en plus aliénant, quoi qu'il arrive, soit parce qu'en fait, justement, les travailleurs sont complètement dépossédés de leur corps, au point qu'ils ne se souviennent pas de ce qu'ils font, au point qu'on leur arrache des années de vie et qu'on manipule leur mémoire, enfin ce genre de trucs. Donc soit en fait ils le vivent dans leur corps, mais en fait ils le vivent vraiment pas, et c'est abominable. Soit en fait on les conditionne à effectuer des tâches qui sont complètement absurdes, qui n'ont aucun sens pour eux, mais ça les détruit quand même, parce que dans VTM, ils doivent quand même passer, je crois, 8 heures à faire ça. Donc 8 heures à accomplir des travaux qui paraissent absurdes, c'est hyper aliénant. Et dans le dernier cas que tu présentais, qui est la séquence Hartman, c'est une ubérisation extrême, en fait. C'est-à-dire que les gens n'ont plus de travail fixe du tout, et ils sont obligés d'accepter n'importe quel travail qui leur vient, même si c'est des trucs du genre garder des poubelles pour éviter que quelqu'un vienne les brûler. Et ça va être garder des poubelles pendant une heure. Et donc, c'est des trucs qui sont absolument terribles. Et c'en est au point où, en fait, le travail est tellement fractionné qu'on parle même plus de job, mais de micro-job, ce qui est terrible. Mais dans les trois cas, ça montre, et c'est ce que Jean Barret explique très bien quand on discute avec lui, et quand on voit, en fait, quand on lit Bonheur TM aussi, c'est que le marché et le capital arrivent toujours, en fait, à phagocyter des manières de s'approprier le corps et l'esprit des gens. Et c'est ce qu'on voit aussi avec toutes les manières absolument innovante et merveilleuse de prolonger la publicité en science-fiction, avec l'exemple que Miroir SF donnait et l'exemple aussi de Rich Larson.
Et au niveau de Severance, la série met vraiment du coup les deux premières choses que tu citais en œuvre, parce qu'il y a à la fois le fait de louer son corps pendant quelques heures et de perdre totalement la mémoire ensuite, donc d'être dépossédé d'une partie de sa vie. Et également pour la partie de la personnalité qui vit le travail, ne le vivre que au travail, donc ce qui est assez terrible, et en faisant des tâches comme dans VTM qui n'ont absolument aucun sens pour la personne. Donc c'est vraiment une série magistrale. Il y a ces deux aspects qui sont montrés dedans. J'ai pensé aussi, en préparant l'épisode, à un épisode de de Black Mirror. Sur la saison 1 de Black Mirror, 15 millions de mérites, qui était assez terrible au niveau du travail un petit peu qui ne fait aucun sens, où les personnes doivent pédaler toute la journée pour gagner des crédits et doivent payer pour ne pas être inondées de publicité, ce genre de choses. J'avais trouvé ça assez terrible comme épisode et un peu représentatif pas d'une ubérisation, mais presque du travail. Enfin, c'est aussi quelque chose d'assez hybride. Après, pour l'ubérisation du travail, on y est déjà. C'est pas forcément de la science-fiction. Il y a pas mal de personnes qui y sont déjà actuellement les jobs de clic, les micro-tâches. J'ai fait un petit peu ce genre de choses pendant un temps. C'est assez terrible, où on répond à des sondages à la chaîne. On essaye de participer à des tests différents, etc. De classer des bouts de phrases pour dire si c'est bien ou pas. Plein de micro-tâches. Prendre des photos de choses autour de soi, par exemple de bâtiments en construction. payer 5 euros pour avoir pris une dizaine de photos sous tous les angles, s'il y a bien les panneaux, ce genre de choses qui sont mises. Donc tout ça, c'est déjà plein de micro-jobs qui existent. Et c'est...
C'est
assez terrible.
Oui, carrément. Sinon, je pensais aussi à un exemple sur le côté... Enfin, d'ailleurs, la situation qui nous est décrite est totalement impossible, mais c'est justement, c'est presque de l'absurde comme aurait pu le faire Boris Vian. Je pense à une nouvelle de Léo Henry qui s'appelle Demain l'usine, où en fait, des ouvriers ont été licenciés et puis ils se sont mis d'accord pour remettre en route quand même la chaîne. Et en fait, donc il y a deux postes. Il y a ceux qui montent le produit le jour et la nuit, enfin, je crois, ou le lendemain, je sais plus. Il y a ceux qui démontent le produit pour pouvoir ainsi ne jamais arrêter l'usine, mais sans avoir besoin d'un approvisionnement en matériaux.
Pour rebondir par rapport à Léo,
c'est quasiment du Kafka tout ça.
Oui, totalement.
Ouais, pour rebondir par rapport à Léo Henry, je ne sais pas si vous avez lu La Panse, c'est qui me fait penser également à d'autres ouvrages comme Clear de Claude Serre, qui mettent en scène des entreprises, des méga corporations dans lesquelles
La Panse, c'est le thriller Lovecraftien qui se passe.
Ah, c'est celui qui se passe à la Défense. Je l'ai lu.
C'est ça. Voilà, donc on voit un petit peu des très grosses corporations, ben les tours à la Défense, dans Clear, c'est un peu pareil, c'est aussi une tour à la Défense.
Mais c'est Catherine Dufour aussi qui a écrit, je vais jamais me rappeler du titre, le truc où elle parodie Twilight.
Entends la nuit. Et j'ai une citation toute prête d'Entends la nuit.
La merveilleuse. Yes.
Un livre que j'ai adoré. Donc, le personnage principal, pour contextualiser un petit peu dans les premières pages, elle a vécu en Hollande, à Amsterdam, si je me souviens bien, pendant quelques années. Et elle est revenue à Paris et sa mère insiste pour qu'elle fasse carrière, qu'elle trouve un poste. Donc, voilà, elle a trouvé un boulot un petit peu, elle ne sait pas trop exactement en quoi ça va consister, c'est faire de la veille dans une très grande entreprise. Donc, dans le cadre d'une discussion avec sa mère, ensuite, le personnage principal va penser, se dire à elle-même donc, j'hésite à donner des détails puis renonce. Pour moi, travailler sert à gagner de quoi manger. Point. J'ai bien essayé d'arrêter de manger une fois, mais ça ne marche pas. Elle ne comprend rien à cette attitude. Elle a mille fois tenté de me montrer les aspects magnifiques du monde du travail. Malheureusement, quand elle dit carrière, je vois un tas de cailloux. Voilà, donc je trouve cette citation absolument merveilleuse sur le travail qui peut n'avoir aucun sens pour les personnes,
puis même
pour
certaines personnes qui fait, en plus dans le roman, c'est pas forcément génial non plus, ça a absolument pas de sens, même quand elle le décrit.
Ouais.
Je vous propose qu'on étende à d'autres types de travail, puisque c'est vrai que là on a été finalement beaucoup sur des tâches qui sont salariées.
Oui, sur l'emploi en fait.
Exactement, c'est synonyme d'emploi, tout à fait. Pour lancer la discussion, je vous propose moi un exemple que j'avais en tête, qui est la servante écarlate, où donc les femmes sont totalement aliénées et mises au service de la société machiste pour assurer la reproduction de l'espèce humaine qui est un peu compromise parce qu'il y a des gros problèmes de fertilité, même si on comprend que les problèmes de fertilité d'ailleurs ne sont pas que chez les femmes mais aussi chez les hommes, sauf que quand c'est chez les hommes on le cache, on l'ignore. Et donc je pense que quasiment tout le monde a lu La Servante Écarlate ou vu la série. Mais c'est pas ton cas, Marc. Eh ben écoute, juste en deux mots, on suit une femme qui est mise à disposition d'un commandant et de son épouse, et donc elle vit dans le logement de ce commandant. Et en fait, le principe, donc elle, je sais plus comment on appelle ça, elle est une, c'est pas une mater, c'est, je sais plus, il y a un mot dans le bouquin, mais en fait, on la laisse 6 mois ici, sachant que de façon rituelle, régulièrement, le commandant va coucher avec elle, de façon très, très ritualisée. Et si en fait, dans les 6 mois, elle tombe pas enceinte, eh bien, elle change de commandant. et ainsi de suite pendant trois fois. Et si au bout de trois fois, ça ne marche toujours pas, on considère donc que ce n'est pas les commandants successifs qui avaient un problème de fertilité, mais la femme qui avait un souci. Et donc là, on l'envoie en camp de travail. Donc on comprend que d'autres femmes s'en sortent un peu mieux. L'épouse du commandant, qui d'ailleurs, pour la blague, est une ancienne Marine Le Pen, complètement. Elle a tellement bien réussi en politique que maintenant, elle est femme au foyer. Et donc, bref, tout c'est un peu long, mais simplement pour vous montrer qu'à mon sens, et d'ailleurs, n'oublions pas, tu parlais de l'origine latine du mot travail, tripalium, mais n'oublions pas que le travail désigne aussi le travail des femmes au moment de l'accouchement. Et donc, c'est assez drôle de voir ce rapport de termes. Et là, clairement, on voit que, elle est une esclave. Je pense qu'on peut parler d'esclave sexuelle, mais aussi d'esclave dédiée à la reproduction. Et c'est carrément un travail. C'est la fonction que la société lui a désignée dans cette dystopie.
Oui, ça me fait penser au travail, à tout ce qui tourne autour du travail domestique. Et on peut peut-être mettre dans le travail domestique plus ou moins le fait de faire des enfants pour pouvoir perpétuer une lignée, même sans aller dans des extrêmes aussi affreux que ce que met en scène la servante écarlate. Devoir se marier pour perpétuer une progéniture, etc., c'est quelque chose qui est souvent mis en scène d'ailleurs dans de la fantasy, et quelque chose contre quoi on va voir parfois certains personnages féminins se révolter. Là, j'ai pas d'exemple imminent qui me vient en tête, mais je sais que c'est un trope quand même qui est assez courant, le fait en fantasy, ça va plutôt être une représentation dans ce sous-genre-là d'imaginaire, d'avoir un personnage féminin qui doit se marier, etc., et qui va le refuser. J'ai un exemple qui vient de me pop en tête. À l'instant, c'est le premier volume des Claire North, Le Serpent, premier volume de la Maison des Jeux, qui est très très bien, et dans lequel le personnage principal est dans cette situation-là, et elle va réussir à trouver un échappatoire plus ou moins mais elle se retrouve dans cette situation d'être mariée à quelqu'un pour perpétuer une lignée, etc. Donc ça fait aussi partie du travail domestique des femmes, potentiellement.
Surtout quand elles ne le souhaitent pas, oui, c'est sûr.
Oui.
Mais même quand elles le souhaitent, dans le fond, c'est un travail, pour le coup, qui est biologique, et ça, on ne pourra jamais, en tout cas, dans les connaissances biologiques actuelles, on ne peut pas demander aux hommes de porter l'enfant en eux. Mais
pour le moment, alors, tu rigoles, mais il y a une greffe d'utérus qui a pris. C'est pas une vanne. Hein.
Oui, je me doute.
Intéressant. Mais oui, effectivement, on peut pas effectivement demander aux hommes cis de porter des enfants. Enfin, pas pour le moment, mais si des gens.
Peut-être que ça viendra.
Peut-être que ça viendra.
Bon, pas mais moi, si on est dans le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, il y aura plus besoin de.
Oui.
Ni des femmes ni des hommes.
Je me posais juste la question.
Oui.
Si vous aviez des représentations de vraiment travail domestique dans l'imaginaire qui vous venait à l'esprit, parce que j'en ai pas qui me viennent immédiatement, mais où on voit un petit peu la tenue d'une maison, on va dire, et vraiment le travail domestique qui puisse être.
Y a pas mal d'utopies qui en parlent, un pays de fantômes, je pense que c'est un pays de fantômes et Écotopia, parce que j'ai passé une partie de l'année à les enseigner à mes élèves. Oui, je suis un prof qui fait travailler les textes anarchistes à ses élèves. C'est comme ça, c'est la vie. Dans Écotopia, tu vois, tu as les exemples de travaux domestiques parce que ça permet à Ernest Kallenbach, l'auteur, de montrer comment est-ce que fonctionnent ces maisons. Puisque Écotopia, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une utopie écologiste qui date des années 70. Et du coup, alors le pitch de base, c'est que 4 États des États-Unis ont fait sécession et un journaliste américain est envoyé dans ce nouveau pays qui s'appelle Écotopia pour examiner comment en fait Écotopia fonctionne. Et du coup, vous avez, il décrit en fait tout le fonctionnement de la société à travers des articles, à travers ses rencontres avec les personnages et ce que la population lui en explique. Et du coup, quand il est dans les maisons, en fait, on voit les gens faire des travaux domestiques, en fait. Et il me semble que dans Un pays de fantômes, on le voit aussi. Parce que comme il y a pas de, enfin comme Un pays de fantômes décrit une utopie anarchiste, il n'y a pas de travail au sens emploi du terme. C'est le enfin la répartition du travail, c'est une répartition des tâches, et ça peut être des tâches qui vont être domestiques, telles que bah il faut nettoyer tel bidule, il faut préparer à manger pour tel nombre de personnes. Et en fait, la répartition des tâches se fait de manière équilibrée. Du coup, c'est assez intéressant aussi de voir ce qui relève de l'emploi dans une société capitaliste peut tout à fait relever du travail domestique dans une société qui ne l'est pas, en fait. Ça aussi, c'est intéressant. De la même façon que dans... j'ai oublié le titre alors que c'est un de mes romans préférés. Si, Les Dépossédés de Ursula Le Guin.
Ah, je voulais en parler.
Moi aussi.
la répartie... Ah, je suis désolé, je vous devance. Alors, j'en dis pas trop, comme ça, je peux vous laisser en parler. Mais pour le travail domestique, c'est la même logique que dans Un pays de fantômes. Il n'y a pas exactement d'emploi dans les maisons. C'est des gens qui sont désignés pour faire telle ou telle tâche. Mais ils se relaient. Donc, c'est pas vrai. Il n'y a pas vraiment de notion d'emploi. Voilà. Donc, c'est les deux choses auxquelles je pense. Oui.
Peut-être juste avant d'enchaîner sur la... Effectivement, sur les dépossédés, mais pour moi, ça rejoint la thématique d'après. Sinon, je pense à Les Femmes de Stamford. Je me souviens plus comment s'appelle l'auteur, c'est un bouquin des années 70, féministe, mais du féminisme avant l'heure. Il y a quelques trucs qui vous choqueraient dans où tu sens qu'il a évolué sur certains aspects et pas sur d'autres. Et c'est une femme féministe qui s'installe dans un bled et qui se rend compte que toutes les femmes sont de parfaites femmes au foyer. Et elle finit par comprendre qu'il y a certaines femmes au foyer modèles de cette communauté qui bizarrement animaient avant un club féministe. Et donc bon, ça l'interpelle. Mais on voit les représentations de la femme au travail, mais pour autant, je dirais que ça axe pas non plus. Enfin, ça dénonce évidemment la condition des femmes au foyer ça revendique le choix des femmes à avoir la liberté de travailler, parce que là, on est vraiment dans une époque où la plupart des femmes dans ces quartiers pavillonnaires américains ne travaillent pas. Mais c'est vrai que ce n'est pas axé spécialement sur la notion de travail.
Je ne l'ai pas lu, mais peut-être qu'un de vous a lu Pierre de Vie de Joe Walton, qui serait de la fantasy. J'ai oublié le terme. La fantaisie un petit peu, voilà, domestique. Donc j'imagine, bon, si aucun de nous trois ne l'avons lu, on ne va pas pouvoir en parler, mais apparemment ça raconte un petit peu le quotidien d'une maison. Oui. Donc il y a des événements un peu qui se passent. Enfin, l'univers a l'air vraiment intéressant. Le temps ne s'écoule pas de la même manière d'un bout à l'autre. Ah, donc génial. si les personnes partent, en fait, pour quelqu'un, il peut s'être écoulé, je sais pas moi, 10 jours, alors qu'à son endroit de départ, en fait, il s'est écoulé 100 ans. Donc quand la personne revient, tout a changé. Mais ce qui est mis en scène dans ce roman, dont j'ai pas mal entendu parler, c'est, comme dit, la vie d'une maison dans cet univers-là, qui va être bouleversée un petit peu parce qu'il y a des personnes qui passent, etc. À tes souhaits, Marc. Mais,
excusez-moi.
Mais je me demande si c'est pas justement, bah, voilà, comme dit, c'est de la fantaisie domestique, donc il doit y avoir une part de représentation du travail domestique. Et Joe Walton étant quelqu'un d'assez féministe, j'imagine que ça doit être assez intéressant de voir comment le travail de la maison est organisé dans son roman. Donc si jamais quelqu'un dans le chat ou qui écoutera l'épisode futur l'a lu et souhaite nous en parler, ce sera avec grand plaisir.
Carrément. Alors, je nous lance, puisque tu as fait référence, Marc, aux dépossédés, donc sur la thématique d'après, qui est l'organisation, une autre organisation sociale du travail. Et là, donc évidemment, c'est difficile de ne pas parler de... J'avais les dépossédés en exemple, mais d'autres. Qui se lance sur la thématique d'une autre organisation sociale du travail ? Anouchka.
Vas-y, Jean, vas-y.
Ah non, je voulais l'introduire seulement. Pour être honnête, j'ai pas lu tant que ça de. Enfin, j'ai dû en lire un certain nombre de bouquins, mais qui m'ont pas forcément marqué. J'en ai que deux en mémoire où vraiment il y avait une organisation différente qui m'ont marqué. Donc, Les Dépossédés et La Nuit des Tendres de René Barjavel. Et je me suis rendu compte, alors La Nuit des Temps, j'ai lu il y a 20 ans, un truc comme ça. Mais j'ai googlisé pour être sûr que mes souvenirs étaient bons. Et oui, et c'est drôle d'ailleurs parce que ça rejoint pas mal certains trucs des beaux CD d'Ursula Le Guin.
Certains trucs.
Hein. Mais il y a des trucs voisins. Et puis, je reviens pas sur les polémiques vis-à-vis de René Barjavel. Hein. Là,
c'est pas des polémiques, c'est des faits avérés.
Je place mon propos uniquement sur le type de société qui nous est montré. En tout cas, dans Les Dépossédés d'Ursula Le Guin, donc on est dans une société qui est anarchiste. Et donc, on n'est pas obligé de travailler. Même chose d'ailleurs dans La Nuit des Temps. Peu importe le choix de travailler ou non, on a une place dans un dortoir et un repas pour la cantine. Et si on décide de travailler, parce que il y a quand même, je dirais, une forme de pression sociale d'une certaine façon à travailler, à se rendre utile pour la communauté, il faut se rapprocher du bureau de centralisation des besoins. Où c'est là qu'on voit s'il y a un travail qui est disponible. Alors évidemment, on voit un type d'anarchisme, parce que moi je me souviens que lire Les Dépossédés, ça m'avait obligé à me renseigner un peu sur les types d'anarchisme. Oui. Et donc là, je pense que l'anarchisme, ça se rapproche de ce qu'on appelle une société anarcho-syndicaliste, le syndicat devenant la nouvelle forme d'organisation sociale. Et puis pour La Nuit des Temps, c'est beaucoup moins intéressant hein, sur le propos, mais on a la même chose sur le fait que le travail n'est pas obligatoire. Il n'y a pas de monnaie aussi d'ailleurs. Ils ont une clé qui permet d'accéder à des unités de matière. Mais en tout cas, et il n'y a aucun travail aussi qui est dévalorisé, c'est dans les choses que j'ai retrouvées. Et la distribution de richesses se fait assez équitablement. Anouchka ?
Oui, non, mais par rapport au fait de l'absence de dévalorisation d'un travail, je trouve dans Les Dépossédés que c'est quelque chose de vraiment intéressant dans le sens où il n'y a pas de sous-tâches, parce que toutes les tâches un petit peu plus pénibles, on va dire potentiellement que la moyenne, les gens se les partagent de sorte à ce que ce ne soit jamais trop pénible, et les gens peuvent avoir à côté un métier qui leur plaise, par exemple le personnage principal est scientifique de renom. Voilà, oui, ça ne l'empêche pas d'aller potentiellement faire la cuisine ou aider à construire des habitations, oui, etc. Mais à côté de ça, comme tout le monde s'y met, chacun a finalement plus de temps pour faire un travail ou d'autres activités qui font sens pour lui. Et je trouve ça vraiment chouette. Par contre, ce qui est un peu montré dans Les Dépossédés, ce serait que ce ne serait possible que quand il n'y a presque rien finalement à se partager, quand les parts du gâteau sont très très faibles, et qu'au niveau de l'humanité ça marche, parce que sans une grosse forme de coopération, ils sont un peu dans la merde lune sur laquelle ils vivent.
Ouais, c'est ça aussi, c'est que cette répartition là du travail, elle est aussi permise et forcée, choisissez la mention que vous voulez, parce que ils en ont besoin pour survivre, en fait. Donc ils sont obligés d'organiser les travaux pénibles d'une certaine façon, parce que sinon, en fait, ils sont dans la merde et ils peuvent pas survivre. Puisque la lune où ils vivent, c'est un environnement hostile. Pas hostile au sens où toute la faune veut les tuer, mais au sens où justement il n'y a pas de faune. Il y a très peu de flore, et du coup, ils doivent absolument, par exemple, boiser, essayer de faire en sorte de faire pousser des plantes, essayer de faire en sorte de pouvoir pêcher, aménager certains territoires. Enfin, et du coup, en fait, cette répartition-là du travail, elle est dictée par des impératifs de survie, tout bêtement. Et je profite aussi ces deux novellas qui sont hyper intéressantes. Je ne sais pas si vous les avez lues, mais c'est une autrice dont on parle beaucoup en ce moment. C'est les histoires de moines et de robots de Becky Chambers, qui traite d'une autre répartition du travail. Et où justement, on parlait des travaux domestiques tout à l'heure. Ben en fait, chez Becky Chambers, on a des descriptions de travaux domestiques, que ce soit dans ces novellas-là ou dans Apprendre si par bonheur, puisque bon, dans Apprendre si par bonheur, vous avez la vie d'astronaute qui voyage. Donc là, pour le coup, bon, bah, vous avez, ça ne relève pas véritablement d'un emploi. Enfin, si, mais bon, bref. Quand ils font la cuisine, quand ils préparent des choses pour leurs explorations, tout ça, on peut partir du principe que ça fait partie du quotidien d'un astronaute en mission. Et pour un psaume pour les recyclés sauvages et une prière pour les cimes timides, qui sont des novellas qui sont absolument magnifiques. Moi, j'ai pleuré devant, enfin bref. En termes de répartition du travail, c'est à peu près... Enfin, ça peut faire penser aux dépossédés, puisque effectivement, les tâches à accomplir sont uniquement celles qui sont nécessaires. Et ça va être vraiment des travaux du quotidien, du genre réparer une porte, installer un grillage quelque part, arroser des plantes, des choses comme ça. Et la monnaie est absente, et alors il y a une sorte de monnaie, mais c'est pas exactement une monnaie. Enfin, elle a réussi à créer une monnaie qui n'est pas du capital, ce qui est assez incroyable quand on y pense, et qui sert en fait pour le troc, pour l'échange de biens et de services. Et le fait de ne pas travailler est plus considéré, enfin, est considéré comme un problème dans le sens où si la personne ne peut rien faire, c'est pas parce qu'elle est un problème, mais parce qu'elle en a un. Sans doute qu'elle est malade, qu'elle est fatiguée, ou qu'elle fait une dépression. Et donc, du coup, le fait qu'une personne ne travaille pas ne va pas être vu comme une tare et ne va pas être vu comme quelque chose de stigmatisant, mais va être comme un signal qui est qu'il faut aider cette personne. Et j'ai trouvé ça profondément beau parce que je pense n'apprendre à personne qu'on vit dans un monde où les gens qui ne travaillent pas sont stigmatisés, fliqués, et qu'on leur donne rien ou presque pour subsister par mois. Alors que justement, on devrait être dans une forme de préoccupation, en fait, de ça. Alors évidemment, on n'est pas du tout dans le bon système pour que ce soit fait, mais je considère que c'est extrêmement dommage et extrêmement triste et profondément aberrant. Donc là, c'est le moment où si mes élèves me regardent, ils sont en train de se marrer parce que j'ai dit aberrant. C'est grave, en fait. C'est très, très grave. Donc, ouais, Becky Chambers montre à la fois une autre répartition possible du travail et en même temps une manière de prendre en charge l'absence de travail. Et je trouve ça très beau. Je l'ai répété 10 fois, mais oui. Voilà.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Alors moi, j'ai juste lu un psaume pour les recyclés sauvages. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant là-dedans, c'est que... on peut potentiellement changer de vocation, c'est-à-dire que le personnage principal va à un moment se dire « Ok, je me suis trouvé, j'ai cette vocation », et puis au bout de quelques années, une fois que c'est maîtrisé, ben, potentiellement peut s'ennuyer et avoir envie de vivre autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui commence à être un peu toléré dans nos sociétés, le fait de changer de carrière, de faire des reconversions, etc. Mais que ce soit montré comme ça, le fait que souvent dans la fiction, et même dans les représentations du travail et des vocations de manière générale, c'est on doit se trouver. Et une fois qu'on a trouvé le travail de nos rêves, on va y être heureux toute notre vie et on va vouloir y rester toute notre vie parce que c'est notre travail ou notre vocation, ou voilà, que ce soit. Oui. Ça peut être pas forcément un travail salarié, mais de la musique, un art, peu importe. Alors qu'en fait, on change potentiellement au fil des ans et quelque chose qui peut nous plaire énormément et nous apporter beaucoup à un moment, bah, au bout de quelques années, on peut s'en lasser et avoir envie tout simplement de faire autre chose. Et je trouve que c'est un livre qui peut faire du bien à pas mal de personnes qui remettent un peu en question ce qu'elles font, qui commencent à s'ennuyer aussi dans ce qu'elles font, dans leurs tâches, pour pouvoir un peu déculpabiliser aussi de ça et se dire « Ok, ben, est-ce que je me lance potentiellement dans quelque chose de neuf ?» Donc ça, j'ai trouvé ça chouette. On n'en parle pas souvent des interrogations de changement de carrière dans
ou de vocation. D'ailleurs, bon, c'est pas trop tourné sur la littérature, ma réaction, mais je plus sois carrément sur ce que tu viens de dire. Moi, je trouve que là, la fiction a une responsabilité, c'est que on raconte beaucoup aux gamins, alors peut-être un peu moins aujourd'hui, enfin, je l'espère, mais moi, en tout cas, on m'a beaucoup dit « Ah, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» C'est pas forcément mes parents, hein, c'est la société en général, les profs,
oui, c'est structurel.
Les amis des parents... les copains, et du coup on se dit qu'effectivement on est fait pour quelque chose. Je trouve que c'est hyper stressant quand t'es gamin, parce que t'as l'idée que
c'est
si
hyper
tu sais
aliénant,
pas ce que
hein.
tu veux faire, c'est aliénant, tout à fait. Et donc, je pense que la fiction, effectivement, a un rôle à jouer aussi dans le fait de changer les mentalités sur le fait que non, on n'est pas en train de se préparer à avoir un métier pour toute sa vie, mais on est en train de se préparer à développer des... Enfin, on développe des potentiels pour avoir de multiples vies, je l'espère.
Au niveau, je ne sais pas si vous avez d'autres choses au niveau des autres représentations du travail, mais j'ai pensé encore à deux autres types de représentations un peu différentes ouais, de ce qu'on a vu jusqu'à présent.
Toujours sur l'organisation sociale, du coup ?
Voilà, sur ouais, une autre organisation sociale du travail. J'ai l'impression que dans certaines œuvres, alors ce n'est pas forcément bien ça, mais qu'il y a un petit peu une... Enfin, ça dépend comment c'est fait, mais qui a une forme de nostalgie du retour à la Terre et du retour au travail de la Terre.
Oui, on parlait de René Barjavel.
Ouais, j'ai récemment commencé à lire La Longue Terre.
Ou Alain Damasio.
De Pratchett et de Baxter. Donc c'est un cycle en 5 tomes dans lequel les univers parallèles sont découverts et un petit peu, quasiment tout le monde peut voyager d'univers en univers, sachant que les autres ne sont pas peuplés a priori. Donc du coup, autour, à gauche et à droite, parce qu'on se représente un petit peu ça comme étant des univers soit qui sont à gauche de la Terre, soit à droite de la Terre, donc on peut voyager dans un sens ou dans l'autre, y a des terres qui sont vierges. Donc, plein de gens vont se mettre à migrer vers ces terres pour pouvoir reconstruire d'autres sociétés. C'est fait un petit peu à la manière pionnier américain de ce que j'ai vu pour le moment, donc c'est pour ça que je trouve politiquement un petit peu limite, même s'il y a aussi la question du troc dans certaines de ces sociétés et le fait que la prime terre, notre terre cherche, la plupart des pays de la prime terre cherchent à avoir un petit peu une hégémonie politique sur les continents, on va dire, ou les espaces, les territoires qui correspondent à leur pays dans les terres parallèles. Donc, il y a un petit peu cette question là. Mais il y a aussi la question du retour du travail à la terre et de tout refaire un petit peu de zéro parce que le métal fer ne peut pas voyager entre les mondes. Donc, il est nécessaire un petit peu de reprendre certaines choses depuis le début, notamment faire des forges et tout. Donc, pas mal de métiers sont réinventés, les gens sont super contents. Mais c'est vrai que politiquement, il y a un peu ce truc aussi du pionnier américain.
Ouais, c'est très réactionnaire dans l'âme, ouais. Mais je pense que c'est critiqué, parce que je vois très mal Terry Pratchett...
J'en ai lu un et un petit peu entamé le deuxième. Il y a des critiques aussi dedans, mais à voir sur la durée. Parce que le deuxième tome, c'est La Longue Guerre. Donc j'imagine que la guerre est fortement critiquée, une guerre potentielle. Et à voir comment ces sociétés multiples vont évoluer. Et je pense aussi, dans ce trope-là, à Orson Scott Card, qui a fait un cycle, je crois que ça s'appelle Terra, je ne sais plus, j'ai lu ça il y a absolument une éternité, qui met aussi en scène dans un autre monde, c'est de la science-fiction, hein, donc sur une autre planète, une société qui est un petit peu à l'état pionnier, etc. Donc il peut y avoir ces relents un peu conservateur qui dans les représentations du travail le c'était mieux avant et tout ça. Vas-y.
Et Marc,
parmi les nouvelles organisations du travail, on a une sorte de comité syndical, bref. Il y a aussi et je suis étonné de pas y avoir pensé en fait avant. Il y a Terra Ignota d'Ada Palmer, en fait, qui dans les deux premiers tomes, parce qu'après c'est plus compliqué et plus guerrier, au sens littéral, il y a la guerre dedans, qui est une utopie à la base qui repense justement toute l'organisation sociale, donc au sens vraiment global du terme, puisque la famille nucléaire n'existe plus. Et donc le travail est complètement repensé, puisque je crois que, alors il faudrait vérifier avec une recherche plein texte, que leur semaine de travail est à 20 heures, je crois. Ce qui fait que les citoyens disposent d'absolument tout leur temps, en fait, pour faire autre chose, des loisirs créatifs, s'occuper de leur maison, ce genre de trucs. Et aussi, ça pose la question au-delà de... Enfin, on a parlé de l'organisation sociale, c'est-à-dire de la répartition
du temps de travail.
de comment est-ce qu'on fait. Voilà, Jean m'a coupé l'herbe sous le pied, mais tant mieux.
Pardon.
Ça parle aussi du temps de travail, en fait. C'est que, typiquement, dans Les Dépossédés, il y a tout un passage que j'ai fait étudier à mes élèves, où, en fait, le narrateur parle du temps de travail sur Anar. Et on voit qu'en fait, de mémoire, je crois qu'ils ont 10 jours de repos consécutifs quasiment tout le temps. Ce qui fait qu'en fait, et le nombre d'heures est très réduit aussi, ce qui fait qu'en fait, ils sont au maximum de leur efficacité. Et en plus de ça, il n'y a pas forcément d'ennui ou de pénibilité physique qui est générée, puisqu'ils travaillent peu. Et justement, vu qu'ils travaillent peu, ils sont suffisamment reposés et ils peuvent travailler correctement. Et c'est ça qui est intéressant, puisqu'on est dans une société où on est en train de remettre en question les 35 heures pour dire « Ah, mais finalement, 40 heures de travail, est-ce que finalement c'est pas plus mal ou je sais pas quoi ?» Mais il faut voir, en fait, dans quel état les gens finissent après 35 heures de travail, pour ceux qui les font vraiment, parce que...
C'est ce que j'allais dire, oui.
Vous ne faites pas... Dans certaines professions, vous ne faites pas 35 heures, vous faites beaucoup
plus. Je confirme.
Moi, je peux vaguement le confirmer, mais ça va générer des polémiques parce que je suis prof. Mais quand vous êtes aide-soignant, vous ne faites pas 35 heures, vous en faites 40, enfin, c'est catastrophique. Donc, l'augmentation du temps de travail, c'est aussi l'augmentation de la pénibilité. Parce que, enfin, voilà. Et du coup, les univers de science-fiction qui repensent le temps de travail, que ce soit dans les utopies comme celle de Becky Chambers, comme celle d'Ada Palmer, comme celle d'Ursula Le Guin, ou en mâle, comme chez Jean Barret, ou chez Saul Pandelakis, ben en fait, ça permet de voir aussi que l'organisation du travail dépend aussi du temps qu'on a à lui allouer socialement. Et c'est hyper important aussi à montrer.
Oui, totalement. Ouais.
Au niveau des organisations du travail, je pensais aussi encore à une autre représentation que j'ai vu particulièrement dans le diptyque de Tanit Lee, « Le vin saphir ne mord pas le soleil », et chez John Varley, dans « Jean de la Lune » notamment. Donc là, c'est des sociétés dans lesquelles tout le travail peut être robotisé et les êtres humains, concrètement, ne peuvent plus rien produire qui ait de la valeur. Par exemple, enfin, comme des vocations, par exemple, être pompier, ben, en fait, ça sert à rien parce que les robots, les IA le font mieux. Donc, il y a cette question de retrouver aussi un sens aux actes, ouais. Et où les personnages, dans les deux, dans, que ce soit dans l'œuvre de Varley, donc Jean de la Lune, ou dans l'œuvre de Tanit Lee, qui date, je crois, des années 70, par là, j'aime beaucoup ce diptyque, donc avec Le vin saphir et Ne mord pas le soleil.
Ce serait bien qu'ils soient réédités, si les éditeurs nous regardent.
Ouais, mais oui, clairement, c'est hyper intéressant. Et dans ces deux œuvres, le personnage principal va faire une dépression nerveuse parce qu'il est en il et elle, et elle dans les deux cas, est en quête de sens. Parce que concrètement, ils ne peuvent plus rien faire qui en est un. Donc il y a plein de personnes qui vont être extrêmement oisives, qui vont surtout être dans des loisirs très passifs de consommation, beaucoup, beaucoup de consommation, mais plus du tout dans le faire, parce que ça n'a plus aucun sens, parce que, voilà. Et je trouve que c'est des visions assez terrifiantes d'une potentielle société future du travail. Et ça rejoint un petit peu le côté travail qui n'a aucun sens, parce que c'est quelque chose qui peut être conjugué, c'est-à-dire pour maintenir des gens occupés et qui soient potentiellement pas trop en dépression parce qu'ils font rien, leur donner des boulots pas parce qu'ils font rien, mais parce qu'ils peuvent plus rien faire qui a vraiment du sens, par exemple être utile aux autres, socialement, oui. Artistiquement ou autre, leur donner des occupations.
Ah, Jean Barret, c'est ça. Hein.
Pour voilà, ouais. Je trouve ça vraiment terrifiant.
Moi aussi.
Le Clug dans les sur les messages sur Twitch nous cite le cycle des robots avec Face au feu du soleil. Les riches vivent dans les colonies stellaires assistées de nombreux robots. Les autres restent sur
Terre. Oui, c'est les solariens.
Je me souviens plus. Chez
PPR, c'est leur sexuel.
Ah, mais non, je l'ai pas lu, le premier tome de Le cycle des robots. Ouais.
Moi, j'ai lu Fondation, et dans Fondation, tu croises les solariens, en fait. Et effectivement, les solariens sont... ouais, c'est ça. Donc, merci beaucoup, Fred, puisque c'est Fred. Oui, c'est les solariens qui, effectivement, sont entourés de robots et qui ne font plus rien et qui n'ont plus à travailler. Mais moi, c'est pareil, je suis assez terrifié par cette division-là du travail où tu vois que chez Jean Barret, comme c'est les algorithmes qui s'occupent de tout, même des... Alors, j'allais dire du CARE, mais les robots psychologues de Jean Barret sont... Bah, ils te proposent de tirer au hasard ta manière de consulter ton psy et sa doctrine psy et sa méthode. Donc, tu peux choisir entre un psy freudien ou un psy rationnel, ou tu peux choisir au hasard, enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est... Voilà, bon. Et donc, en fait, vu que les travaux du CARE sont... employés, enfin, sont mobilisés par des robots et que, en fait, les gens ne peuvent plus mourir parce qu'ils sont ressuscités par des systèmes de régénération. Ben, en fait, effectivement, le travail n'a plus aucun sens, mais il faut quand même maintenir les gens occupés. Donc, on leur fait faire des trucs absolument absurdes. Et d'une certaine façon, je trouve que c'est encore pire que l'oisiveté totale parce que vous êtes quand même maintenu dans un système de servitude. Parce que dans VTM de Jean Barret, les humains sont vraiment dans la servitude vis-à-vis des algorithmes. Et c'est assez horrible.
Alors, Emel Cassius va nous assassiner.
Je pense qu'on peut difficilement faire pire comme société, ouais.
Oui.
Alors, Emel Cassius va nous assassiner si on ne parle pas de Wally.
Je ne l'ai pas vu.
Moi, je l'ai vu il y a longtemps.
Alors, je l'ai vu, mais il y a.
Bah, les humains ont stoppé le taf, délégué aux robots. Du coup, ils sont catatoniques. Et la seule histoire d'amour, bah, c'est entre deux robots. Ah, c'est beau.
Ouais. Quel poète. Oui, parce que dans Wally, effectivement, c'est les robots qui travaillent, enfin, qui font tout. Et les humains sont dans l'espace. Déjà, ils vivent plus sur Terre. Et ils ne foutent absolument plus rien. Et c'est assez dramatique, puisque, et je ne sais pas si c'est dans les angles qu'on a prévus, Monsieur Miroir SF, mais il y a aussi, dans la répartition sociale du travail, et vous me voyez venir parce que j'ai parlé de Karl Marx tout à l'heure, il y a aussi quelle classe sociale ne travaille pas et quelle classe sociale travaille.
Ah, j'y avais pas pensé, mais je suis bête. C'est le milieu de. on ne peut pas ne pas parler de ça, je suis d'accord.
Et il y a aussi un moment, effectivement, où dans beaucoup de récits de SF dystopiques, la bourgeoisie, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, celle qui a les moyens de production, celle qui a les richesses, enfin voilà, bon. Je suis désolé, hein, c'est très. L'ombre du Père Noël et sa barbe resplendissante planent sur cet épisode.
Il n'y a pas besoin de lire la SF, ceci dit, pour la croiser, la bourgeoisie.
Oui, non, mais clairement. Hein. Bon, mais là, on parle des bourgeois du futur. Bref, allez, j'arrête mes conneries. parce que, évidemment, dans la SF dystopique, les bourgeois, en général, n'ont plus besoin de travailler. Ils se sont enrichis encore plus qu'actuellement, si toutefois c'est possible. Et il y a aussi, du coup, de facto, soit le prolétariat, c'est-à-dire les gens qui travaillent, la classe ouvrière, devient soit. Soit elle reste ouvrière et en fait elle est de plus en plus aliénée, donc on en arrive aux univers de Saul Pandelakis avec les micro-jobs ou les univers où on vend son temps de cerveau, où on vend son corps pour arriver à survivre et à subsister au sein d'un univers où le capital phagocyte absolument tout. Soit on en arrive à des situations où les robots remplacent complètement les humains et deviennent de facto un nouveau prolétariat. Ce qui amène le problème de, si c'est des robots qui deviennent conscients, ça pose des problèmes éthiques, parce que, Ah mon Dieu, je suis en train de lire le chat, et ça me déconcentre, il ne faut pas que je fasse ça. Je suis vraiment désolé. Mais du coup, si les robots sont conscients et qu'ils sont assimilés à un nouveau prolétariat, c'est problématique, et ça pose des problèmes éthiques. Et ça montre qu'effectivement, l'exploitation de son prochain et la déshumanisation de son prochain, c'est pas génial. Mais il y a aussi tout le côté de le fait de remplacer intégralement par des machines, ça génère en fait de l'oisiveté à balles. Et en fait, le fait de libérer tous les humains du travail pose la question de, une fois qu'on a aboli le travail parce que tout est mécanisé, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, les sociétés anarchistes répondent globalement très bien à ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours une forme de travail, c'est-à-dire que, évidemment, si tu parles de travail au sens d'emploi, bien sûr que si on abolit le travail au sens d'emploi, bah, il n'y en aura plus, donc voilà, tant pis. Mais dans une société anarchiste où il faut s'occuper des gosses, éduquer les gens, planter, faire des plantations, faire la cuisine, ce genre de trucs, t'es obligé d'avoir du travail. Tu peux pas générer une oisiveté totale, à moins d'être littéralement et totalement matrixé. Comme dans VTM, par exemple. Donc, c'est compliqué. Enfin, ça pose vraiment des questions aussi, la représentation des robots dans la science-fiction, parce que, justement, dépendant de si vous l'assimilez à un prolétariat conscient ou pas, ça va développer un certain nombre de questions éthiques vis-à-vis du travail. Ouais. Mais il y a toute une question de classe. Comment est-ce que la bourgeoisie est décrite en science-fiction? Et comment est-ce qu'on décrit le prolétariat en science-fiction? Et ça tombe bien que Miroir SF soit là, puisqu'on a interviewé Jean Krug aux Intergalactiques en avril dernier. Et justement, Jean Krug montre que le prolétariat peut être vraiment de plus en plus exploité, souffrir de plus en plus, et les bourgeois de plus en plus s'enrichir. Et c'est matérialisé chez lui comme chez beaucoup d'autres, par le fait, enfin, c'est matérialisé par un topos qui s'appelle, j'aime pas le mot trope, donc j'utilise le mot topos qu'on utilise en études de lettres, mais c'est la même chose qu'un trope, le topos de l'échelle sociale qui est matérialisé en fait géographiquement, c'est-à-dire que les riches vivent en haut et les pauvres en bas. Ça existe au moins depuis les monnades urbaines de Silverberg, de Robert Silverberg, de son petit nom, et c'est extrêmement présent, c'est présent aussi chez Catherine Dufour dans Le goût de l'immortalité, et ça permet en fait de vraiment matérialiser à quel point la hiérarchie sociale pèse sur les classes laborieuses en fait, et c'est extrêmement pratique de matérialiser.
D'ailleurs, j'étais en train de me dire, alors on le voit dans la cité d'Ivoire, mais j'aurais aimé trouver un exemple plus percutant, peut-être que vous allez en trouver. Il y a des bouquins où à des moments donnés il y a un renversement social où les pauvres prennent la place des riches et font bosser les riches. Alors, dans la cité d'Ivoire, on ne voit pas tout à fait ça, mais presque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a les bourgeois dans leur nef, qui est une sorte de paquebot de luxe, qui se retrouvent abandonnés en pleine forêt vierge et à devoir se débrouiller seul. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que non seulement bon, ils sont démunis, mais en plus, il y a aussi la question de... Ah, je ne sais plus dans quel bouquin j'ai lu ça, mais est-ce que tu continues... dans la mesure où tu te retrouves éloigné de ta société, potentiellement, tu ne vas plus la retrouver. Par exemple, typiquement, tu es abandonné sur une île déserte. Est-ce que tu continues, toi, esclave, par exemple, qui était sur le bateau, est-ce que tu continues à être l'esclave des bourgeois du bateau,
oui,
alors même que toi, tu as une valeur, une force de travail qui, tout d'un coup, est beaucoup plus puissante, puisque tu es capable d'aller couper du bois, potentiellement chasser sur l'île, et alors que ces gros bourgeois qui avaient plein d'argent, mais qui n'a strictement aucune valeur sur cette île paumée, eh bien, je ne sais plus dans quoi, où j'ai ce souvenir de bourgeois qui finissent finalement attaqués par...
Moi, j'ai un exemple, mais qui n'est pas du tout de l'ASF, pas encore que...
Vas-y.
Mais c'est l'île des esclaves de Marivaux. Parce que c'est littéralement ça, l'île des esclaves de Marivaux, c'est une pièce de théâtre où on a Arlequin et son maître qui s'appelle, je ne sais plus comment... C'est pas vraiment comme ça, c'est juste que je ne me rappelle plus. Et donc, en fait, dans l'île des esclaves de Marivaux, c'est une utopie qui a été fondée par des esclaves qui se sont libérés de leur maître. Et quand ils trouvent un maître, ils libèrent ces esclaves et ils le réduisent en esclavage pour lui faire comprendre en fait ce que c'est l'esclavage. Et dans ce roman-là, enfin dans cette pièce de théâtre-là, en fait, Marivaux voit qu'il n'est pas forcément d'accord avec la répartition du travail à son époque, et on voit aussi qu'il imagine qu'effectivement, en dehors d'un certain cadre social, les classes sociales, enfin en dehors d'un certain cadre, les classes n'ont plus forcément cours, enfin elles n'ont plus forcément cours parce qu'on est trop éloigné de là où elles font sens en fait. Et donc effectivement, quand la bourgeoisie est mise en difficulté, c'est parce que son argent ne vaut plus rien. Et ça, on le voit aussi historiquement dans les périodes de guerre ou dans les périodes de crise économique. Dans notre réalité, j'entends.
Anouchka, tu voulais dire un truc ?
Non, non, non. J'écoutais. J'ai pas d'exemple de ce en fiction. Enfin, j'ai dû en, probablement en lire, mais j'ai pas d'exemple là tout de suite qui me vient à l'esprit en fiction de retournement de situation.
Mais je trouve qu'on est imprégné de ça. En tout cas, c'est qu'on doit on doit en croiser quand même régulièrement. Et puis.
Et mais puis après. Oui, après, je me dis, ça peut être aussi intéressant de voir ensuite comment établir une société égalitaire et pas renverser simplement le... C'est-à-dire montrer pour ensuite établir quelque chose d'un petit peu plus juste et égalitaire, pas juste on renverse et puis...
Un pays de fantômes de Margaret Atwood. Becky Chambers.
Ouais. Ah, c'est vrai, hein, c'est littéralement des créations utopiques. Enfin, c'est... littéralement des organisations par le consensus et par des processus démocratiques.
Je suis bête, moi je suis en train de faire...
J'ai vraiment hâte de faire bosser ces trucs-là à mes élèves l'an prochain, parce que je rêve d'avoir des cinquièmes l'an prochain pour pouvoir faire la séquence de l'utopie avec Margaret Killjoy et... Enfin oui, j'ai dit Margaret Atwood, n'importe quoi. Avec Margaret Killjoy.
Oui, ça m'étonnait aussi.
Et oui, non. Surtout que je ne suis pas forcément très fan de Margaret Atwood, puisqu'elle nie le fait d'écrire de la SF, et elle s'est fait engueuler par Ursula Le Guin pour ça, d'ailleurs. Mais je rêve d'avoir encore des cinquièmes l'an prochain pour pouvoir bosser Écotopia, et surtout Un pays de fantômes avec eux, pour pouvoir leur montrer, en fait, comment fonctionne une démocratie, au sens strict du terme.
Alors moi, j'ai failli passer à côté, alors même que je suis en train de faire une vidéo sur le bouquin. C'est l'année du lion de Diane Meyer. Alors Diane Meyer, il est pas trop connu dans la sphère SF parce que c'est un auteur de polar et de policier qui est originaire d'Afrique du Sud et enfin qui vit en Afrique du Sud et qui écrit en afrikaans. Il s'est essayé un bouquin de science-fiction qui est du post-apo, l'année du lion, que je recommande chaudement, et j'ai fini de tourner ma vidéo maintenant, il faut que je la monte, donc ce sera d'ici quelques semaines maximum que je la publierai. Et je précise pour tous ceux qui sont agacés par ces gens hors de la sphère SFFF qui se mettent à écrire de la SF, ce type a une vraie culture de SF, même s'il revendique, enfin il revendique qu'il en lit un peu moins qu'avant, en tout cas il a une vraie culture SF.
Oui, c'est pas quelqu'un qui vient comme ça.
C'est ça, et puis en fait son roman se lit avec plaisir, et il y a une expérimentation sociale, puisque il y a une pandémie, le bouquin a été écrit en 2016, mais... c'est vraiment le Covid-19 s'il avait tué 95% de la population. D'ailleurs, c'est un Covid et c'est quasiment le pangolin, sauf que c'est avec une chauve-souris qui chie sur un mec qui est en train de dormir
sur le de la réalité.
C'est beau, oui.
Et donc 95% de la population meurt. Et en fait, il y a un père et son fils qui ont survécu, qui font partie des 5%, qui sont en train de traverser l'Afrique du Sud, qui est totalement dévastée, et où on en est au stade où en fait les gens qui survivent, c'est ceux qui pillent et qui tuent. Et en fait, le père, lui, il a tout de suite une obsession. On ne le dit pas dès le début, mais on le comprend assez vite. Il a envie de construire une nouvelle communauté. Dans le fond, il y a presque un rêve qui s'accomplit pour lui. Et il va s'installer à côté d'un barrage électrique parce qu'il se dit tout de suite qu'une fois qu'on aura progressé dans la reconstruction d'une communauté, peut-être qu'on arrivera à remettre en route la centrale hydroélectrique. Et donc il y a une expérimentation sociale et ce que je trouve intéressant, c'est à la fois il y a une question de distribution du pouvoir, et d'ailleurs on l'a pas dit depuis le début, mais en fait dans le travail il y a aussi la politique de fait, enfin ça ne devrait pas être un travail, mais rappelons que c'en est un dans notre société, et puis de fait on pourrait considérer que même si c'est temporaire, c'est toujours un travail, c'est une forme de travail. C'est plus que ça ne devrait pas être un emploi permanent dans notre société, mais en soi, même si c'est fait de façon purement bénévole le week-end, quand on est par exemple adjoint au maire dans une petite commune de la Creuse, clairement, c'est une forme de travail, même si on ne vit pas de ça. Enfin, bon, pardon, je m'éloigne du sujet. Mais donc, on voit une expérimentation politique croisé avec la notion de violence, puisqu'on voit bien que c'est très compliqué dans ce genre de société qui est fragile, surtout quand il y a des hordes de pilleurs partout, de s'en sortir sans violence. Et ce que je voulais dire, c'est là que j'ai réagi quand je t'écoutais, Marc, c'est que il y a la notion de deuxième chance et de rôle social qu'on a. Alors, je veux pas spoiler, mais il y a des personnes qui vont s'accomplir dans cette société, qui vont trouver toute leur utilité. Et d'ailleurs, c'est intéressant cette idée de communauté qui se reconstruit. C'est là qu'on voit qu'on n'est plus dans... On dit plus le mot travail, dans le fond. On parle d'utilité, puisqu'en fait, c'est évident qu'il faut travailler pour reconstruire la société.
Oui, comme dans les dépossédés.
Exactement. Et là, tout le monde se retrousse les manches. On n'essaye pas de se demander quel travail est plus valorisant que l'autre, en fait. En tout cas, dans les débuts. Mmh. Et donc, il y a des personnes qui ont vraiment une nouvelle chance et qui vont totalement s'épanouir.
Mmh. Pardon, ouais, c'est super un peu intéressant.
Long. Non, mais non, c'était intéressant.
Non, c'est intéressant. Et ça montre que, clairement, toutes les sociétés ne donnent pas les mêmes chances aux mêmes personnes. Ça, c'est clair.
Totalement.
Oui, et que la notion du travail peut être très différente d'une société à une autre et peut être positive ou négative au final. Parce que tu as donné une définition du travail au début, mais après, voilà, bah, travailler son instrument, travailler son instrument de musique, travailler sa pratique, quelle qu'elle soit, c'est quelque chose de valorisant et de positif.
Puis on a parlé de justement de toutes les formes de travail qui existent, parce que typiquement, ça c'est ce que beaucoup de gens qui sont libéraux ou très portés sur le capitalisme ne comprennent pas, c'est que typiquement quelqu'un qui fait à manger et qui fait sa vaisselle, c'est du travail, il n'est pas oisif chez lui. Et c'est ça aussi le truc, c'est qu'on assimile le fait de ne pas travailler au sens de ne pas avoir d'emploi au fait d'être oisif, mais... C'est pas parce que, enfin, les gens qui n'ont pas d'emploi, ils font des choses chez eux. Ils sont pas couchés à rien faire, quoi.
Bah, Emelka parlait des artistes aussi dans le chat. Et d'ailleurs, on pourrait polémiquer si on voulait sur les régimes des intermittents. Mais clairement, les artistes sont très souvent considérés par la société comme des gens oisifs. Et comme si ce qu'ils faisaient n'avait pas de valeur.
Oui, il y a même cette idée du travail passion. À partir du moment où un travail peut potentiellement être une passion, il devient dévalorisé. Ou alors, à partir du moment où un travail peut être un travail plus de femmes, un domaine un petit peu plus féminin, ça va être dévalorisé. Au niveau du travail passion, bon, c'est petit. Mais dans le développement informatique, par exemple, la branche du jeu vidéo est vraiment le parent très pauvre au niveau de l'informatique. Très, 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 très pauvre. Les salaires sont divisés par deux. Hein, alors que les personnes ont des compétences qui peuvent être... Enfin, qui peuvent être plus importantes qu'un développeur informatique standard, parce que c'est très difficile, le jeu vidéo. Mais voilà. Donc, tout ça, c'est du travail. L'art, c'est du travail. La lessive, c'est du travail.
C'est comme les services à la personne. Je vais pas parler de l'éducation parce que c'est biaisé. Évidemment, c'est moi qui en parle. Mais les services à la personne, la justice, l'hôpital, tout ça, bon, l'éducation aussi. Effectivement, beaucoup de gens considèrent, tout le monde sera d'accord pour dire que c'est important, et pourtant, c'est souvent des parents pauvres des systèmes financiers et tout ça, alors que, et c'est dommage. C'est foncièrement dommage. De la même façon que le fait que les artistes. Ne puissent pas vivre correctement et soient souvent dans des situations de précarité costaud, que ce soit hier comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est quand même assez costaud. Alors j'ai plus en tête les statistiques de la Ligue des auteurs professionnels, mais j'avais vu quelque chose comme, c'est un chiffre assez astronomique, il y a un chiffre vraiment astronomique d'auteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et je considère que c'est pas fou quand même que quelqu'un qui crée soit dans la misère, en fait. C'est abominable. Enfin, parce que personne ne devrait être dans la misère, au fond. Alors là, je brasse de l'air, c'est des choses évidentes. Mais Mais... Là, pour le coup, on ne peut pas dire qu'un écrivain qui va plancher sur son roman 8 heures par jour, parce que certains le font, hein, ne travaille pas. C'est des conneries, en fait.
Là, pour mais le coup, on pourrait parler du revenu universel, d'ailleurs. Enfin,
oui.
Je pense que c'est inévitable d'en parler, et j'y ai fait référence, d'ailleurs.
Finalement, c'est très politique comme épisode.
Et le oui. travail, c'est forcément politique. Et après, la situation donne aussi à voir, ça donne à voir aussi tout ça sous d'autres
angles. Ah oui, moi, je suis content. Il n'y a pas de...
En pire ou en mieux.
Il n'y a pas de problème. Hein. Je peux...
Mais en tout cas,
ce qui est intéressant, c'est de voir les angles SF et imaginaire, comment tout ça s'est abordé. Quoi, et penser. Ouais,
totalement. Et en tout cas, le revenu universel, par définition, s'il existait et qu'il permettait vraiment de vivre dignement... ça apporte une redéfinition de, enfin, ça amène à repenser complètement son activité et à réfléchir à comment on veut être utile socialement.
Oui, clairement, très clairement. Ben, chez Ada Palmer, il est mis en place, mais de toute façon, oui, c'est ça. Chez Ada Palmer, il me semble qu'il est mis en place. Celles et ceux qui l'ont lu me corrigeront si c'est pas le cas, mais. Mais moi, il me semble qu'il est mis en place et que, de facto, ça permet de redistribuer très concrètement les tâches, en fait. Puisque, de toute façon, en plus, chez Ada Palmer, chaque personne choisit plus ou moins de vivre comme elle l'entend selon un modèle de société, selon différents modèles de société. Donc, ça permet aussi, effectivement, de repenser beaucoup de choses. Puisque votre temps de travail est réduit et qu'en plus vous avez un revenu universel, votre travail n'est plus conditionné à votre survie en tant qu'être humain. C'est ça aussi qui est fondamental à comprendre quand on parle de revenu universel.
Anouchka ?
Oui, je dis par contre, chez Ada Palmer, le travail peut aussi être vu comme une punition parce que les criminels finalement se voient être plus ou moins esclavagisés pour une période de temps donnée. C'est, ils doivent contribuer à la société sous forme de travail.
C'est ça. Donc, et ça génère... C'est
comme punition, du coup.
Ça les transforme en nouveaux prolétariats. Et on voit qu'ils sont méprisés par les gens. Enfin, dans le tome 1, on voit que, justement, dès les premiers chapitres, on voit que des servants, et le nom est pour le coup pas anodin, hein, ils se font tabasser parce qu'ils ramassent des ordures pas assez vite ou quelque chose comme ça. Enfin, des gens font exprès de les tyranniser. Et la fin du cycle, que je ne spoilerai pas plus que ça parce que c'est merveilleux, la fin du cycle, justement, dénonce très clairement le fait que la société ait généré des esclaves, en fait. Et il y a un personnage qui dit, vous vous rendez compte que quand même, vous avez réduit des gens en esclavage et vous avez fait quelque chose d'atroce en fait en faisant ça. Et ça amène la question du travail forcé, de faire en sorte que quelqu'un effectue des tâches comme une manière de le torturer, comme une manière de le punir.
Et oui, c'est ça qui est du coup très ambigu en fait, mais c'est ça qui est bien aussi dans le cycle d'Ada Palmer, c'est toute l'ambiguïté qu'il y a dans toutes les sphères
sociales.
Alors je vous propose, parce qu'on commence dangereusement à approcher de la fin, puisque rappelez-vous, le format finit toujours à 22h30.
Oui, c'est une émission, c'est un format, là pour le coup c'est une émission qui est très riche. Alors j'en ai parlé en off. Je sais que Saïd a dit qu'il aurait des choses à dire, moi j'aurais encore pas mal de trucs à dire, donc très clairement je l'annonce, ce sera une annonce avec un effet ou pas, mais je milite ardemment dans l'équipe pour qu'on fasse des capsules ou des émissions bis qui rebondissent sur certaines choses qui ont été dites pendant les émissions et tout, parce qu'effectivement le format étant réduit à 1h30, il y a des choses qu'on ne peut pas dire par manque de temps. Et j'aimerais bien que là, sur un sujet aussi vaste et aussi costaud, on puisse par exemple, et là je donne l'idée vraiment en live parce que ça vient de me popper et c'est une discussion qu'on avait déjà eue, mais typiquement on pourrait lire chacune une ou deux nouvelles
qui
traitent de science-fiction ou de fantasy ou que sais-je, qui traitent du travail, et en discuter en live ou en capsule hors live. Mais ce serait une expérience hyper intéressante.
Sur la SFFF à la française aussi, il faudrait qu'on fasse ça. On s'était dit, l'enregistrement de l'émission, il y avait tellement à dire que... Ouais.
Oui. Ouais. Oui, oui, oui.
Alors, pour nous occuper, parce qu'on ne manque pas de sujets, effectivement, pour ce dernier quart d'heure et donner un peu plus de joie, je vous propose que vous nous donniez, quelques... Alors, on va commencer par des trucs un peu sombres et puis terminer par des trucs un peu plus chouettes. Que chacun, vous nous donniez un ou plusieurs exemples de jobs affreux, mais aussi de jobs cool que vous auriez pu lire en SFFF. Je propose qu'on commence par les jobs affreux, puisqu'on a, on vient de parler de...
de faire toute une liste, ouais.
Mais on était plus sur des jobs, dans le fond, qui existent déjà dans notre société. Là, je vous demande de faire preuve un peu de... Enfin, si vous avez des exemples en tête...
Moi j'en ai. C'est bon.
Alors vas-y Marc.
Vas-y.
Ça va faire écho à un autre épisode de Mana et Plasma. Dresseur de Pokémon. Voilà. Quand vous êtes dresseur de Pokémon, vous êtes confronté à des créatures. J'en ai un autre qui va faire écho à peu près à la même chose dans le même endroit. Mais quand vous êtes dresseur de Pokémon, vous êtes confronté à des créatures. Techniquement, qui peuvent vous tuer, puisqu'il y a quand même des dragons qui tirent des lasers. Vous êtes confronté à littéralement des entités qui peuvent déplacer les continents, des entités qui ont façonné des continents. Vous pouvez être confronté à littéralement Dieu. Voilà, donc c'est une expérience intéressante. Chasseur de monstres dans Monster Hunter. Voilà. Pour ceux qui connaissent
décimer l'écologie, Monster Hunter, oui.
Alors, décimer l'écologie ou se faire décimer par l'écologie, parce que il y a quand même le côté où vous affrontez des dragons qui pèsent 800 kilos et qui font 8 mètres de haut. Et dans Monster Hunter Freedom Unit sur PSP, vous affrontez le Lao Chanlong, qui est littéralement un dragon montagne qui du coup vous devez défoncer à la baliste. Aux balistes, l'arme de siège hein, médiéval, le gros truc, parce que il est géant. Et du coup, chasseur de monstres, c'est une activité, c'est tendu, voilà, parce que vous décimez certes l'écologie, mais l'écologie n'est pas en reste de moyens de vous tuer, puisqu'elle a des griffes acérées, des lance-flammes, de l'acide, de la foudre, de la glace. Elle peut vous projeter depuis l'arène où vous vous battez à 10 mètres de hauteur. Et vous avez pour l'abattre des armes, certes, mais pas des armes non plus incroyables qui peuvent les tuer en un coup. Et vous vous nourrissez de plantes et de steaks. Donc, c'est pas une blague, hein, c'est vrai. Donc, voilà.
Y a et donc, t'as décidé de prendre ta retraite, du coup, c'est ça?
Je pense que quand tu es chasseur de monstres, tu n'atteins jamais l'âge de la retraite. Il n'y a même pas d'histoire de flèche dans le genou. Ton genou s'en va avant.
T'as même pas le truc de te dire je fais quelque chose de bien pour le monde, parce qu'en fait tu vas juste dans des continents ou quoi où les êtres sur place vivent super tranquilles, et toi ton but c'est de venir tout désinguer pour leur prendre leurs écailles, leurs machins, et de faire des armures plus fortes pour pouvoir en désinguer d'autres plus forts. Donc il n'y a même pas le truc de dire ok, je participe à quelque chose, voilà, je me sacrifie, mais pour le bien commun. Non, c'est juste très très bon choix, Marc, très bon choix.
On a parlé beaucoup de SF, alors je voulais compenser avec.
Anouchka, toi, un métier horrible.
Je pense à plusieurs, du coup. Il y a ces métiers de patrouille du temps, donc je pense à la patrouille du temps de Poul Anderson ou dans Le Visiteur du Futur, la brigade temporelle, d'essayer de maintenir le passé dans l'état dans lequel il est, de surtout ne rien corriger, donc pouvoir voyager dans le temps mais sans avoir la possibilité de rien changer. Je trouve ça un petit peu dur quand même, voilà.
Ouais.
C'est un boulot de après, vigile, quoi.
Et après, il y a dans le jeu vidéo Death Stranding, donc le métier du personnage principal qui est de ramener des trucs à droite à gauche et de se faire prendre pour un con un peu par tout le monde parce qu'il faut ramener un flacon ici, un truc là, et donc il fait que courir sur la route et se mettre en danger pour tout le monde alors que il n'a pas grand chose. Enfin, j'ai pas terminé le jeu donc me spoilez pas si jamais, mais il n'a pas grand chose de plus spécial vraiment que les autres. Voilà, donc Sam Porter, hein, qui porte bien son nom parce qu'il est porteur, parce que les personnes ont des noms de famille qui sont un peu corrélés à ce qu'ils font et ou au lieu dans lequel ils sont. Donc je trouve ça assez dur d'être seul sur la route en permanence à devoir ramener des choses à des gens dans un monde post-apocalyptique. Bon. Et après, il y a Guerrier de la Lumière dans Final Fantasy XIV où tu te retrouves à faire toutes les quêtes pour tout le monde. Tu dois aider la Terre entière en permanence et le poids de la survie du monde repose sur tes épaules en plus. Donc, tu as le poids de la survie du monde sur tes épaules parce que tu es spécial, tout ça. Mais en plus, il faut que tu ailles ramener les trois petits cochons que Madame Michu a perdus, etc. Donc, tout le monde te prend pour un con aussi en permanence. Tu rencontres des gens. Eh bien, ils te bouffent ton temps, voilà. Et il n'y a personne pour avoir un peu d'empathie pour toi. S'il y a un ou deux personnages, mais spoiler, il y en a qui ne survivent pas, mais qui ont une vraie empathie et qui te traitent comme un être humain, voilà, normal, qui peut potentiellement être faillible ou quoi. Autrement, pour tout le reste, non. On est la personne parfaite qui doit absolument tout résoudre tout le temps. Et je trouve quand même que c'est un poids qui est énorme psychologiquement. Voilà.
Carrément. Alors moi, le job affreux que j'ai imaginé, alors un travail qui existait dans le passé, mais qui existe dans ce futur dystopique, c'est Wang de Pierre Bordage. Je ne sais pas si vous l'avez lu.
Je vois vaguement ce que c'est.
Je ne l'ai pas terminé, mais j'en ai lu une bonne partie il y a longtemps.
D'accord. Alors Wang, qui est en deux tomes, je crois. Il y a un mur, il y a un mur qui est construit en Europe pour empêcher les immigrés de venir jusque dans la partie riche de l'Europe. C'est un mur, je crois, qui monte très haut dans l'atmosphère. Je ne sais même pas s'il a une limite exacte.
Insérer ici blague sur Donald Trump.
Non mais. Il date des années 90.
Oui, je sais. Je sais. Dit,
la notion de mur, ça fait longtemps que malheureusement en politique. On pourrait parler de l'Israël bien avant les années 90, par exemple.
Insérer une blague sur la Hongrie.
Ah ouais, ah, les sujets qui fâchent.
Et en tout cas, dans ce bouquin, régulièrement, le mur s'ouvre. Il y a un passage qui s'ouvre et les immigrés hésitent à y aller. Parce que ils savent pas trop ce qui se passe et il y a des rumeurs très très affreuses sur les gens qui passent et en fait il y a un immigré qui tente le tout pour le tout parce que je crois qu'il risque de se faire tuer par des mafieux et puis de toute façon sa vie est horrible donc il se dit allez j'y vais. Il passe dans le passage et là il découvre qu'en fait tous les immigrés qui régulièrement passent sont intégrés dans une émission de télé-réalité comme gladiateurs. Enfin, gladiateur, sorte de gladiateur du futur. Donc, en fait, il y a des reconstitutions historiques qui sont faites je ne sais plus si c'est sur une île, je crois que c'est en Vendée. Non, ça ne doit pas être sur une île. Il me semble que c'est en Vendée. Il y a des reconstitutions qui sont faites. Et donc, on arme les immigrés et on leur met tout l'équipement de l'époque. Donc, on voit je me souviens que... Il y a des batailles antiques qui sont rejouées, mais je crois aussi qu'il y a des batailles plus type Première Guerre mondiale. Enfin, je me souviens plus trop. Et donc, voilà, faut se battre.
Ouais, gladiateur des temps modernes, quoi.
Exactement. Bon, maintenant, un peu plus fun, des jobs que vous avez trouvé cool. Même si je pense que ce que vous avez souligné, certains auraient estimé que c'était cool, quand même.
Oui, moi, j'ai un job cool. Être Sonic le Hérisson. Ça, c'est un...
Pourquoi ?
Bah parce que tu vas vite. Ah non, putain. Ah mais non, mais c'est pas de la SF. J'allais dire Need for Speed. Mais non, c'est pas de la SF. Je suis en train de réfléchir. Je laisse aux autres la possibilité.
Anushka.
Alors moi, je m'étais noté dans Becky Chambers, donc un psaume pour les recyclés sauvages, moine de thé. Oui. C'est une sorte de psychologue ambulant, moine, qui offre le thé aux gens pour que des gens viennent s'épancher et qu'ils aillent mieux ensuite. Donc, tout le travail du moine, ça va être de trouver le thé adéquat qui va aider la personne à se sentir mieux par rapport à sa problématique. Donc, comme j'aime bien le thé et que j'aime bien écouter les gens, je dis ça pourrait être sympa, mais après, pas pour toute une vie quand même, pour quelques années peut-être. Et sinon, pour le côté peut-être un petit peu fun, mercenaire d'une rock band dans le Wild de Nicolas Ames. Du coup, c'est des bandes de mercenaires qui sont un petit peu comme des rockstars et qui vont aider les gens, hein, truc de fantasy. Mais c'est pas de la fantasy classique, attention, même si ça en a les tropes. Donc, je trouve ça assez marrant.
Du coup, je pensais, parce que j'ai fini le cycle en revenant de chez ma frangine ce week-end, Enlumineur dans le cycle des Enlumineurs de Robert Jackson Bennett. Qu'est-ce qu'un enlumineur chez Robert Jackson Bennett? Alors, c'est pas quelqu'un qui fait mais c'est littéralement, effectivement, des informaticiens, puisque chez Robert Jackson Bennett, le système de magie, c'est littéralement de la programmation. Et par le code que vous écrivez, les glyphes que vous tracez, alors qui s'appellent des enluminures en fait en français et scrivings en anglais, vous reconfigurez le rapport aux lois physiques des objets, mais pas que des objets, je ne spoil rien du tout. Et l'exemple que je donne ultra souvent et qu'on peut donner en fait pour comprendre comment ça marche, typiquement, le monde des maîtres enlumineurs est médiéval, enfin a priori médiéval, mais ils ont déjà des automobiles pour une raison très simple, c'est que leurs roues sont enluminées pour qu'elles sont persuadées d'être tout le temps en descente. Et donc je trouve ça assez incroyable, puisque du coup, quand vous êtes enlumineur, vous vous amusez à jouer avec les lois physiques et avec la notion de réalité, au risque évidemment de mourir dans une explosion parce que la réalité n'est pas contente si elle voit que vous essayez trop de la manipuler, et donc elle provoque des explosions. Et je trouve ça absolument formidable, puisque vous êtes littéralement un magicien qui essaye, théoriquement dans la pratique, ils sont soumis à des méga-corporations, mais qui essaye d'améliorer le quotidien des gens, puisque les enlumineurs permettent de faire de l'eau courante, permettent de faire du chauffage, permettent de faire de la domotique. Donc c'est quand même pas mal. Vous êtes un ingénieur du génie civil, mais vous êtes un magicien. Donc c'est vachement cool. Voilà. Et vous pouvez aussi faire des IA qui butent plein de gens et qui veulent littéralement prendre la place de Dieu. Mais voilà, c'est les risques du métier.
C'est les risques du métier, voilà. C'est de l'informatique appliquée, hein, voilà.
Voilà, blague à part, le système de magie est vraiment incroyable. Et la trilogie entière est... Waouh, c'est chef's kiss. Vraiment, allez-y, c'est fou. Et pour ceux qui se soucient des représentations, le personnage principal est une femme homosexuelle, donc c'est vachement bien. Voilà, si vous en avez marre des héros virils, machin, blablabla, bah y en a pas. Voilà, donc c'est vachement bien. Et c'est la preuve aussi que des hommes cis peuvent écrire des trucs pas trop mauvais, des fois. Non, mais c'est vachement bien.
Alors, à mon tour de vous donner le métier cool, alors je sais pas si Melka nous écoute encore, mais c'est une dédicace à lui. Puisque c'est un métier d'artiste, mais d'artiste du futur. J'en avais parlé, d'ailleurs, je crois que c'était dans la même capsule, Anouchka, que celle où tu avais parlé de la série Severance. C'était sur le syndrome du scaphandrier de Serge Brussolo.
Et je l'ai lu aussi, celui-là, ouais.
Je l'ai pas lu, mais je sais que je lis. Il est vraiment, il est génial, ce bouquin. Et donc, en fait, les artistes rêvent. Enfin, c'est un type d'art, mais en tout cas, là, on suit des je crois que d'ailleurs, le nom, c'est des rêveurs. Et donc, le personnage principal, alors, je rêverais pas forcément d'être le personnage principal parce que, disons que c'est un artiste qui a du mal à avoir du succès. Concrètement, il rêve. Quand il rêve, à chaque fois, il fait toujours le même rêve. Il rêve qu'il fait un cambriolage avec une équipe d'amis et puis une femme qui représente exactement la femme avec qui il aimerait être. Et donc, il rêve qu'il fait ce cambriolage et puis il doit dérober un butin et revenir à la surface. On ne parle pas de rêveur, on parle de plongeur, je crois. Et donc, il doit remonter à la surface, puisqu'ils ont tout un discours de la plongée qui est développé chez ces artistes. Et donc, il remonte à la surface. Et concrètement, c'est quelque chose qui peut durer une journée, deux journées. Il va dormir. Il y a quelqu'un qui vient, de mémoire, qui vient et qui installe Même, je me demande s'il n'y a pas un système de perfusion pour s'assurer que la personne puisse être bien alimentée pendant le rêve.
Ah ouais.
Et à la fin du rêve, il y a un ectoplasme qui se cache, qui a jailli un peu de nulle part, qui se cache sous le lit et qui va être ramené dans un musée. Alors surtout, il ne faut pas que l'artiste voie l'œuvre. Et cet ectoplasme, ensuite, a une valeur folle. Alors plus l'ectoplasme est imposant, plus il a de valeur. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a des valeurs aussi thérapeutiques. Et il y a notamment l'œuvre d'art qui est la plus célèbre dans ce bouquin, a arrêté une guerre. Le type a rêvé au milieu d'un... alors qu'il y avait un conflit, genre un conflit mondial ou je ne sais pas quoi. Et donc, il y a une œuvre monumentale qui a été créée, qui s'appelle, je ne sais plus, c'est peut-être l'œuvre La Place de la Paix, et donc qui a été mise au milieu de la place. Et en fait, il y a tellement des ondes positives qui rejaillissent de l'ectoplasme que je crois que le prix de l'immobilier a gonflé autour de cette place, parce que les gens veulent tous habiter à côté, puisqu'ils n'ont plus de problèmes d'insomnie, ils dorment bien, etc. Et il y a un marché de l'art qui s'est développé. Chacun veut son petit ectoplasme chez soi. Voilà.
Et chez Brucelot, il y a une grande... une grande place à tout ce qui est rêve, cauchemar, inconscient, oui. De ça, c'est en filigrane un peu dans une grande partie de son œuvre. Oui.
Totalement. Voilà. Bon, par contre, vous imaginez pas forcément que c'est un bouquin où. Moi, j'aimerais bien être l'artiste qui réussit dans cet univers, mais.
Oui, l'artiste qui réussit pas, oui.
Voilà, il a quelques difficultés, mais par contre, la psychologie du personnage est parfaitement bien réussie. Je conseille vivement ce roman.
D'accord, d'accord.
Voilà. Bah, écoutez, chers amis, je pense qu'on est arrivé au bout de cette émission, mais comme Marc le disait, on fera des capsules sur des sujets supplémentaires. Pourquoi pas avec une liste de nouvelles à lire, carrément, ça permettrait d'avoir des échanges assez intéressants et puis de confronter nos points de vue.
Et petite info sur les antos liés au travail. Là, il y a Travailler encore qui est sorti chez
Actuation aux éditions HUSF.
Voilà.
Dirigé par Stéphanie Nico et avec des textes de fiction et des textes de chercheurs.
Oui, et la postface c'est d'Ariel Kirou. Et il y a notamment Katie Stewart, Pierre Bordage, David Brie qui ont écrit dedans. Katie Stewart a pas mal écrit sur le travail de manière générale. Et il y a aussi une autre anthologie qui est sortie il y a quelques années chez La Volte,
Demain le travail. Enfin, qui s'appelle Au bal des actifs, Demain le travail.
Oui,
oui c'est ça.
Et j'ai lu plusieurs nouvelles cet après-midi et hier soir dans cette anthologie. La nouvelle Alive de Katie Stewart, la nouvelle qui s'appelle Miroir de Luvan et la nouvelle qui s'appelle Profil de Lickham. Enfin, j'ai lu les nouvelles de Lickham, Luvan et Katie Stewart dans cette anthologie. Et elles sont assez incroyables et elles font partie, si jamais on fait un épisode... de lecture et de confrontation de points de vue, elles font partie vraiment des choses que j'aimerais proposer pour un épisode comme ça, pour tester le format, parce que ça fait... Là, on vous parle de ce format comme si l'idée venait d'émerger, mais dans les faits, cette idée-là, elle est présente depuis des plombes. Mana et Plasma a 3 ans maintenant, et c'est une idée de format qu'on a eue vraiment dans la première année. Donc j'aimerais beaucoup le tester, en fait. Vraiment, j'en ai vraiment hyper envie.
Ouais, non, mais carrément, je suis d'accord. Bien, écoutez, chers amis, on va s'arrêter là et puis on se retrouve très bientôt. Ah oui, c'est une petite publicité, comme Marc le disait tout à l'heure, on a fait une interview aux Intergalactiques avec Jean Krug. Avec Jean Krug, et on va mettre en ligne le podcast, je pense, d'ici une semaine et demie. Pas ce week-end-ci, mais celui d'après.
Ouais. Voilà.
Allez, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.
À très bientôt. Salut.
Thank you.